Tous les jours à partir de 9h, l'équipe de Café Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Au Café Service, l'émission libre service de la Radio de la Paix.
La protection de l'environnement et la lutte contre le réchauffement climatique sont des sujets d'actualité dans le monde et dans notre pays. Pour résoudre ce problème, les spécialistes recommandent aussi l'utilisation des énergies renouvelables fournies par le soleil, le vent, la chaleur, les chutes d'eau ou encore la croissance des végétaux. Ces énergies ne polluent pas l'environnement. Comment promouvoir leur utilisation en République démocratique du Congo? Pour en parler, nous recevons Jean Desdieux Minengou. Bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes expert en environnement et développement. Qu'est-ce qu'on entend par énergie renouvelable?
Merci. On appelle les énergies renouvelables, ce sont les énergies dont les rythmes de consommation est égal au rythme de renouvellement. Donc, parmi ces énergies, vous avez là,
c'est-à-dire?
Donc, ce sont des énergies dont la manière dont elles sont consommées doit être égal à la manière dont les énergies doivent se renouveler. Sinon, si la consommation dépasse le renouvellement des énergies, ça pose des problèmes. Là, elles ne peuvent pas être appelées énergies renouvelables.
Alors, pouvez-vous donner des exemples concrets?
En fait, à ce qui concerne les énergies renouvelables, je voulais directement et parler des potentialités qui existent en République démocratique du Congo à ce qui concerne les énergies renouvelables. En RDC, nous avons par exemple l'énergie hydroélectrique. Là, il faut préciser que la République démocratique du Congo renferme 40% du potentiel au niveau africain et 13% au niveau mondial. Malgré tout cela, et sur le terrain, on voit qu'il n'y a pas beaucoup d'efforts qui sont fournis pour permettre à cette forme d'énergie d'apporter la solution à la situation de la communauté.
Alors, parlez-nous d'abord de ces énergies. Quels sont ces différents types d'énergie renouvelables?
Ok, parmi ces différentes énergies renouvelables, nous avons l'hydraulique, nous avons le solaire, nous avons l'éolien et nous avons également la biomasse. Là, dans la biomasse, vous avez le charbon de bois, les bois de chauffe, vous avez également les biocarburants, qui sont les formes d'énergie renouvelable qui existent. Il y a bien d'autres, voilà les formes les plus courantes qu'on entend d'énergie renouvelable.
Alors, parlons d'abord de l'énergie solaire. Souvent, on parle de l'énergie solaire photovoltaïque. C'est quoi et comment ça fonctionne concrètement?
Bon, l'énergie solaire, c'est tout simplement les rayonnements solaires qui sont captés à partir des panneaux solaires et qui les transforment en électricité. C'est ce qu'on appelle l'énergie solaire, c'est à travers le photovoltaïque. Et ici, en République démocratique du Congo, nous avons un potentiel très important parce que la durée d'éclairement par jour, c'est en moyenne de 5 heures. Donc, c'est une forme d'énergie qui peut être utilisée pour pouvoir apporter des solutions aux problèmes de la société.
Donc voilà, surtout dans les milieux où il n'y a pas d'électricité.
Exactement, surtout dans les milieux où il n'y a pas assez d'électricité, cette forme d'énergie peut être appliquée. Il n'y a aucune centrale solaire dans notre pays. Quand vous arrivez, par exemple, à l'aéroport de Casablanca au Maroc, vraiment l'essentiel de l'énergie est apporté à partir du soleil. Donc, mais il n'y a pas de soleil au Maroc par rapport ici. Mais malgré tout ça,
c'est tout simplement la lumière du jour qui est captée
par les photos et par les panneaux et puis ça transforme en électricité pour régler le problème.
Et cette forme d'énergie n'est pas beaucoup plus développée ici chez nous.
Ici, en République démocratique du Congo, je ne connais pas jusque-là une centrale solaire très bien développée, mais il y a quelques initiatives individuelles où les gens ont quelques panneaux. Il y a quelques projets qui sont développés dans les différentes provinces de la République pour essayer d'utiliser cette forme d'énergie. Mais elle n'est pas très, très développée.
Donc, c'est difficile d'avoir une centrale qui peut fournir l'énergie aux autres personnes.
Oui, pour une production beaucoup plus importante, il faut une centrale solaire. Donc, c'est pas
avec plusieurs panneaux.
Avec plusieurs panneaux, la lumière solaire et la transforme en électricité.
Oui. On parle aussi de l'énergie éolienne. Pouvez-vous nous en dire plus?
Bon, l'énergie éolienne, c'est la transformation de l'énergie cinétique développée par le vent en électricité. Là, on utilise
comment les termes beaucoup plus simples.
Bon, en fait, là, c'est le vent qui fait tourner des palettes de l'éolien. Et avec là, ça développe, il y a l'énergie cinétique qui est transformée en énergie électrique pour pouvoir régler le problème.
Comment se fait cette transformation?
Mais en fait, vous avez ce qu'on appelle l'éolien. Vous avez des palettes qui sont là. Avec le mouvement des vents, vous avez les palettes qui font tourner, les vents qui font tourner les palettes. Et avec ce mouvement-là, vous avez le développement Oui, mais ce n'est pas l'air,
c'est comme des ventilateurs.
C'est comme des ventilateurs, exactement, qui font tourner, et puis il y a le développement de l'énergie. Il y a le développement de la
production. Ça tourne et ça produit une certaine énergie.
Ça produit une certaine énergie qui est souvent l'électricité. Donc voilà. Donc ici, en République démocratique du Congo, il y a trois sites favorables pour le développement de l'énergie éolienne. Vous avez la côte au niveau de Moanda, vous avez les plateaux de Bateke ici à Kinshasa, et également vous avez les plateaux de Kundalungu au Katanga, où on peut très bien développer cette forme d'énergie.
Pourquoi? Parce que là-bas, il y a la circulation, le vent.
L'élément le plus important, c'est la vitesse du vent. Donc il faut que la vitesse soit importante, qui doit aller en minimum de 3 mètres, le maximum c'est 25 mètres, et là c'est très important pour que les palettes puissent très bien tourner et produire de l'électricité. Parce que s'il y a de l'intermittence, alors vous aurez des jours où vous avez de l'électricité, vous avez des jours où vous n'avez pas d'électricité. Donc il faut un réseau, des endroits où le vent est permanent et qui peut faire tourner les éoliennes.
D'après nos informations, à Manenga, à Gilles Brasserie, il semble que cette expérience est déjà. On expérimente déjà cette forme d'énergie là-bas.
Oui, il y a quelques projets comme ça, individuels, qui sont développés, mais le site le plus favorable, c'est là. Donc, on ne peut pas penser, à mon avis, développer l'énergie éolienne au niveau de la province du Yucatan, parce qu'il y a un rideau forestier très important et que la vitesse du vent dans cette province n'est pas très importante. Donc, ce sont les sites les trois favorables.
Il y a trois sites favorables, lesquels pouvez-vous les.
Vous avez au niveau de Moanda, la côte au niveau de Moanda, vous avez le plateau de Bateke ici à Kinshasa, et vous avez également le plateau de Kundalungu dans la province du Katanga. Ce sont les trois sites favorables pour le développement de l'énergie éolienne en République démocratique du Congo. Parce que la vitesse du vent, elle est très importante.
Elle est très importante. Avec cette forme d'énergie, on peut fournir du courant.
Oui, en permanence. Avec cette forme d'énergie, on peut fournir du courant à la population.
Et on parle aussi de l'énergie hydraulique. L'énergie hydraulique, parlez-nous de cette forme d'énergie.
Oui, l'énergie hydraulique, c'est la forme qui est très bien connue en République démocratique du Congo. Vous savez, le plus grand barrage,
le barrage Dinga.
Vous avez le barrage Dinga, donc ça, c'est l'énergie hydraulique. Vous avez également les barrages, et vous avez également la cité Kakobola qui pourrait être construite d'ici là, dans la province de Bandundu. Jusqu'à là, il faut des actions beaucoup plus concrètes pour apporter réellement de l'énergie à la population. Donc voilà, c'est ça l'énergie hydraulique.
Et la petite hydraulique, on parle aussi de la petite hydraulique.
Oui, la petite hydraulique. La différence entre la grande hydraulique et la petite hydraulique, c'est la hauteur de la cité. Lorsque vous êtes la hauteur de la cité inférieure à 5 mètres, là vous êtes dans la petite hydraulique. Lorsque la hauteur de la cité est supérieure à 5 mètres, là vous êtes dans ce qu'on appelle la grande hydraulique.
Dans la grande hydraulique. Il y a aussi les énergies marines. Ça,
oui, bon, en fait, ça,
on en parle aussi ici chez nous.
Exactement, on parle de l'énergie holomotrice, qui sont utilisés également pour la production d'énergie, mais ici ce n'est pas très bien développé, ce sont des énergies qui sont souvent développées en Europe.
Là, ça fonctionne comment? C'est toujours avec les barrages?
Oui, non, pas nécessairement avec les barrages. Vous avez par exemple, surtout au niveau de l'énergie holomotrice, ça c'est au niveau de mer, on récupère l'énergie développée par les mouvements des vagues des eaux, et puis ça fait tourner des turbines pour produire de l'électricité qui peut être utilisée à des fins industrielles ou pour les problèmes de ménage. Donc voilà, ce sont des formes d'énergie, mais qui ne sont pas très bien développées chez nous, donc on ne peut pas en passer.
Parce que les mouvements des vagues, à Moanda, ça peut être, les mouvements des vagues sont réduits.
Exactement, à Moanda, on peut développer cette forme d'énergie, mais ce sont des installations qui coûtent extrêmement cher. Je crois que nous avons des potentialités que nous pouvons utiliser, l'hydraulique naturelle, vous avez le solaire, vous avez le biocarbien, et bien d'autres formes d'énergie, mais ça peut être utilisé, mais ça demande des moyens extrêmement importants pour pouvoir utiliser cette forme d'énergie.
Oui. Un auditeur en ligne à confiance, il nous appelle de Kinshasa, vous voulez également participer, nous parlons de la promotion des énergies, comment promouvoir les énergies renouvelables, composez le 081-890-63-94.
L'influence de la culture dans l'éducation des jeunes filles, c'est le thème d'un forum qui se tiendra les 26 et 27 avril à l'Université de Kinshasa. Étudiants, jeunes universitaires, sociologues, historiens, éducateurs et organisations de la société civile, tous débattront du rôle de la culture dans l'épanouissement des jeunes filles. L'influence de la culture dans l'éducation des jeunes filles, ce sera les 26 et 27 avril de 9h à 14h dans la salle de promotion de l'Université de Kinshasa avec la MONUSCO et le système des Nations Unies.
Comment promouvoir les énergies renouvelables? Jean Dédieu Minengou est expert en environnement et développement et invité au Café Service Confiance. Vous êtes à Kinshasa, bonjour.
Bonjour.
Quelle est votre question?
Je suis conscient que bon, Kinshasa. Je suis parmi les gens qui aiment beaucoup les énergies renouvelables et puis tout ce qui a trait à la défense de la nature et de l'environnement.
Okay.
Je suis vraiment content d'avoir entendu notre invité d'aujourd'hui parler de ce sujet-là, bien que il n'y a pas de proposition. Mais je suis quand même content qu'il ait parlé de trois sites favorables. Mmh. Ça m'a vraiment ouvert l'esprit. Mais j'ai tout un tas de questions parce que pratiquement depuis une semaine que je suis en train de dégager certains sujets et voir comment est-ce que je peux partir du néant, c'est-à-dire à partir des zéros, même à partir d'une ordure, mais devenir riche. Pas nerveux, c'est possible. Mais quand tu en parlais des énergies renouvelables, ça m'a donné une idée. Est-ce qu'il y a moyen de le voir en dehors de l'antenne pour que je voie avec lui qu'est-ce qui est faisable?
Alors, M. Jean de Dieu, pouvez-vous lui donner votre numéro de téléphone? Il va vous appeler peut-être après l'émission.
Ok, mon numéro de téléphone, c'est le 09.
09,
oui. 90.
Ok.
25.
25.
35.
Pardon, ça veut dire 09 90 25 35 29.
Oui, bon, en fait, vous avez dit qu'il y a pas, il y a des propositions extrêmement importantes, il y a également des projets de développement.
C'est pour ça que je voulais vraiment avoir un projet qui peut ne faire partir du néant, c'est-à-dire de pratiquement zéro, et arriver à une richesse. Parce qu'il y a des choses que le Congolais peut-être peut oublier. Aujourd'hui, on peut devenir riche à partir de la production de l'énergie. Parce que j'ai appris dernièrement qu'on pouvait transformer un moteur diesel comme nous en avons actuellement et qu'il fonctionne au gaz naturel.
Voilà,
c'est déjà faisable.
C'est déjà faisable. Confiance. Merci d'avoir appelé. Vous avez le numéro de M. Jean des Dieux. Vous pouvez l'appeler après l'émission et vous allez continuer à en parler. Merci d'avoir appelé. Jean-Cy, vous êtes à Kananga. Bonjour.
Bonjour, Diodine Kassama.
Quelle est votre question, Jean-Cy?
Vraiment, je suis content de l'émission. Néanmoins, monsieur, je suis un peu désolé.
Pourquoi?
Parce que votre invité est en train de nous mettre dans une difficulté absolue de poser des questions. Parce que je suis aussi parmi les utilisateurs d'une certaine des catégories qu'il a relevées tout à l'heure. Mais à moi, avec le terme trop technique, là, nous, on ne saura pas vraiment comprendre. S'il peut diluer un peu sa façon de parler comme ça, ça va nous aider aussi à intervenir.
Merci, Jean-Cy. On vous demande d'utiliser des termes beaucoup plus simples, monsieur Jean des Dieux. Bon, après, vous avez déjà parlé d'un certain nombre de formes d'énergie renouvelable. Alors, on va parler également de l'énergie biomasse. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est exactement?
Donc, je vais essayer d'être beaucoup plus simple dans ma manière de parler. Ça, c'est une remarque très fondamentale. En ce qui concerne la biomasse, en termes très simples, c'est l'énergie qui est produite à partir de la matière organique. C'est l'énergie qui peut être produite à partir des plantes.
C'est l'énergie. La matière organique.
Oui, à partir par exemple des plantes, à partir des déchets organiques.
Des déchets, des cuisines.
Voilà, tout ça. Ça, c'est de l'énergie qu'on pouvait obtenir à partir de ces matières-là. Et dans cette catégorie de la biomasse comme source d'énergie, nous avons le biocarburant. Nous avons également le charbon de bois. Le bois de source, ça c'est ça qu'on appelle
le bois de source, c'est ce qu'on utilise,
le macala qui fonctionne. Ça c'est ce qu'on appelle la biomasse sur le plan énergie.
Mais quand on coupe trop les arbres, c'est aussi un problème par rapport à l'environnement.
Oui, en fait, l'énergie bois fait partie de la catégorie des énergies renouvelables. Mais elle ne peut pas être considérée dans une certaine mesure comme énergie renouvelable si on coupe le bois de façon anarchique. Si la coupe de bois ne suit pas un certain ordre, si vous coupez le bois sans toutefois le remplacer, ce n'est pas une énergie renouvelable. Donc on coupe le bois, il faut le remplacer par d'autres bois. Là, l'énergie bois devient ce qu'on appelle énergie renouvelable. Mmh. Et dans la catégorie de biocarburant, comme je venais de dire, c'est le carburant, c'est l'énergie carburant obtenue à partir de certaines plantes cultivées. Là, il faut être beaucoup très simple pour dire que nous avons deux grandes filières importantes au niveau du biocarburant. Nous avons ce qu'on appelle la filière alcool et nous avons ce qu'on appelle aussi la filière huile.
Donc, vous voulez dire qu'on peut obtenir du carburant pour faire fonctionner les véhicules et les moteurs grâce aux éléments naturels.
Exactement. C'est pas une idée nouvelle, hein, en tout cas, parce que le moteur diesel lui-même qui a été inventé par Rudolf Diesel, le premier moteur avait fonctionné avec lui.
Avec l'huile.
Et le moteur à essence qui a été inventé ce n'est pas pour qu'il fonctionne avec de l'essence. Il a fonctionné avec de l'alcool. Donc, ce n'est pas une invention. C'est bien sûr le développement de l'industrie pétrolière et des modifications qu'avait subi l'industrie automobile que les gens ont dû abandonner ces formes d'énergie pour aller vers des énergies polluantes. Mais au moins, ce sont des énergies qui ont été déjà utilisées justement à l'invention de l'industrie automobile. Donc, comme je disais, il y avait des grandes filières, filière alcool et filière huile. Dans la filière alcool, ce qu'il faut dire de façon simpliste, ce sont des plantes céréalières, des plantes qui produisent du sucre. Là, vous avez la canne à sucre, vous avez les maïs, vous avez les sorgho et toute cette culture-là qui fait produire du sucre. Là, qui produit de l'alcool, qui peut être utilisé dans les moteurs à essence. Dans la filière huile, vous avez également des plantes qui produisent des huiles, exactement, les oléagineux. Là, vous avez les palmiers à huile, vous avez les soja, vous avez les tournesols, vous avez les atropas également qui peuvent être utilisés pour la production du biocarburant. L'huile peut être utilisée à l'état naturel, après la transformation, etc.
Ça fait fonctionner les moteurs.
Là, ce n'est pas n'importe quel type de moteur. Si vous utilisez l'huile pure, ce n'est pas n'importe quel type de moteur.
Moteur diesel.
Ce sont les moteurs diesel du type Lister qui sont fabriqués maintenant par les Indiens. Mais si vous voulez utiliser l'huile comme carburant dans les moteurs, il faut aller vers un processus que nous appelons la transpérification. En termes simples, vous mélangez l'huile avec l'alcool et vous obtenez ce qu'on appelle le biodiesel. Ça, ça peut être utilisé maintenant dans les moteurs classiques actuels. Mais dans les moteurs actuels, on ne peut pas utiliser l'huile à l'état pur à cause de la viscosité. Donc voilà un peu en bref ce que je peux dire par rapport à tout ça. Il y a énormément d'expériences qui sont réalisées. Il y a énormément de...
Voilà, on y revient tout à l'heure, de répéter la question de Benjamin depuis Bounia. Bonjour Benjamin. Benjamin, vous êtes à Bounia, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Oui, on vous écoute. Hein.
Ça va, je remercie d'abord notre invité, puisque le très bien ce que nous voulons entendre plus. Alors, même, j'ai une précipitation concernant le sujet.
Oui.
Alors, je voulais juste proposer à notre invité une chose qui est un peu très importante. Alors, vu que la RDC est tellement potentiellement donc, riche en ressources énergétiques, mais quand on voit très bien, la population dispose vraiment peu de moyens d'exploitation. Alors, en tant qu'environnementaliste, quelle solution on peut proposer à la population donc, de la RDC pour arriver un peu à rehausser leur niveau d'exploitation en rapport avec les ressources énergétiques? Et puis, de deux, je voulais lui proposer une chose. Comment il peut nous conseiller donc, sur l'adaptation de l'utilisation des différentes ressources énergétiques ici. Quand on voit très bien, il y a même de ces ressources-là qui provoquent chaque fois des incidents. Comme exemple, il y a des groupes électrogènes, quand on les utilise, il arrive parfois où ça provoque même des incendies, et il y a parfois où ça provoque même il y a des explosions qui se font voir dans des maisons. Alors, on ne peut pas une bonne utilisation comment. Et puis, je voulais également lui poser quelques questions. Puis, quel conseil il peut donner à notre gouvernement pour arriver un peu à arranger ce secteur-là de l'énergie qui est vraiment trop à bas niveau au niveau de notre pays.
Merci Benjamin. Dimanga, vous êtes à Kisangani, bonjour.
Oui, allô, je vous écoute.
On vous écoute, Dimanga.
Oui, j'ai une petite préoccupation. Et la première, c'est... Parmi les différentes sources d'énergie que l'État vient de minimiser, quel est le type d'énergie qui est mieux adapté pour un pays comme la RDC? La deuxième question maintenant, je veux aussi que l'État puisse nous donner les avantages et les désavantages des statuts d'énergie.
Merci, Jimanga. J'en ai 2 minutes. Merci. Je remercie les intervenants. Il y a Benjamin et Simanga. Je commence par Benjamin au niveau de la troisième question. Et il me demande quel conseil qu'on peut donner au gouvernement pour la promotion des énergies renouvelables. Et je crois que depuis l'année passée, la faculté des sciences agronomiques de l'Université de Kinshasa s'est investie pour la promotion de ces formes d'énergie. On avait prévu même d'organiser ce qu'on appelle le programme national biocarburant, parce que les investissements dans ce secteur n'étaient pas faits s'il n'y a pas un cadre qui réglemente la gestion de ces ressources. Mmh. Alors on avait discuté avec l'ensemble du ministère, on était au niveau du ministère des hydrocarbures, au ministère de l'Environnement et de l'Agriculture.
on avait préparé même la moitié du programme, mais malheureusement, les choses n'ont pas très bien évolué, les choses étaient compliquées, il y a beaucoup
quoi.
Mais vous savez comment les choses marchent dans ces pays, les choses ne marchent pas très très bien, donc vous voyez. Parce que, moi, à mon avis, je pense que les choses n'ont pas marché parce que, finalement, les politiciens, comme on l'a vu, voient l'argent directement. Or, dans les programmes, il n'y a pas l'argent directement. Dans les programmes, c'est les idées comment les biocarburants peuvent être produits directement dans le pays. Mais je crois que c'est ça qui a fait que les gens n'ont pas trouvé l'intérêt à mettre ce qui est en programme. Et par rapport même à la gestion des énergies renouvelables, pour qu'il y ait une promotion, pour que les gens viennent investir dans la construction des centrales solaires, dans la construction des centrales éoliennes, dans la construction des centrales thermiques, il faut qu'il y ait une stratégie nationale en matière de promotion des énergies. Mais la stratégie n'existe pas. Quand vous allez dans les pays comme le Bénin, le Mali, le Burkina, ces pays ont des stratégies, ont des programmes par rapport à toutes ces énergies. Mais chez nous, ça n'existe pas. De ce point, moi, je pense parce que finalement, il faut peut-être que il faut la coopération technique belge, peut-être qu'il faut que le programme des Nations Unies vienne leur dire, voilà, il faut faire un programme, mais c'est un collègue de l'État. Pour ça, si l'université congolaise qui propose ça, je pense que ça ne passe pas très bien. Mais les idées sont là.
Les
on
idées
a
sont là.
Discuter, oui. Mais ça n'a pas très bien.
Alors, Benjamin dit également comment rehausser le niveau de vie de la population grâce à ces énergies.
Oui, il est important de rehausser le niveau de vie des populations grâce à ces énergies. Comme vous le savez, que l'énergie est au même titre que l'eau, l'éducation et la santé, un besoin prioritaire de l'humanité. Parce que sans énergie, on ne peut pas très bien enseigner des enfants. Quand vous allez aujourd'hui dans les universités, dans les écoles, on a besoin de l'énergie pour éclairer les salles. On a besoin de l'énergie. Pour que les ordinateurs fonctionnent, on a besoin d'énergie pour que les services qui gèrent les élèves ou les étudiants fonctionnent normalement. Aujourd'hui, quand vous arrivez au village, tous les enfants qui naissent de façon prématurée meurent. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut pas installer des couvertes dans les villages parce qu'il n'y a pas de source d'énergie. Ce sont pas même tous les jours. Donc, l'énergie, elle est capitale. Alors, il n'y a pas simple plus à la population de pouvoir trop attendre quelque chose. Il faut que les gens se prennent en charge pour créer des structures, s'organiser, faire en sorte qu'ils
prennent des initiatives. Pour avoir
des initiatives au niveau local pour avoir l'énergie, c'est plus facile.
Oui.
Avec des plantes comme les atrophas, et les gens peuvent avoir de l'énergie au village.
Oui.
Avec des petits projets, on peut avoir des centrales solaires qui fonctionnent et les gens ont de l'énergie dans les villages.
Avant de continuer, nous avons des autres auditeurs en ligne. Ingénieur Mangoyo, il est à Kinshasa, et Mbenza nous appelle de Mwanda dans la province du Bas-Congo. Ingénieur Mangoyo, bonjour.
Oui,
Ingénieur Mangoyo, bonjour.
Bonjour, bonjour, monsieur le journaliste.
Bon, on vous écoute.
Oui, bon, moi j'ai des préoccupations à choses à partager avec notre invité.
Oui.
Bon, la première, c'est que, bon, vous savez, ce genre d'émission, ce genre de thème est tellement intéressant que je voudrais un peu demander à notre invité, il parle, mais est-ce que quels sont les rapports entretiennent-ils avec le ministère de la recherche scientifique? Est-ce qu'ils ont un plan, parce qu'il ne suffit pas tout le temps de parler, mais de mettre en pratique pour que cela puisse profiter à l'ensemble de la population? Quelles sont les démarches qu'ils entretiennent au niveau des ministères compétents de la recherche scientifique? Ça, c'est notre question. Deuxième préoccupation, c'est que bon, il a parlé de l'alcool qui avait été utilisé à l'époque, à l'origine de l'invention de l'automobile. Mais est-ce qu'ils veulent revenir sur ça? Est-ce qu'ils ont déjà étudié pourquoi on a évolué vers l'essence? Parce qu'on risque de rentrer à la case de départ. Est-ce qu'ils ont étudié ça? Quelles étaient les contraintes qui ont fait que les conducteurs des automobiles puissent abandonner justement le fait de l'alcool pour évoluer vers les centres, parce qu'ils risquent de faire un travail utile et revenir encore rejoindre les actuels évateurs. Voilà,
merci. Merci, Ingénieur Mangoyo. Monsieur Mbenga, vous êtes à Mwanda, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, je suis vraiment très ravi avec la mission, parce que je suis un homme de développement.
Okay.
Alors, j'ai pu déboiser 2 hectares de l'hydrogène dans les plateaux de base de Kitona par les Atatria.
Mm-hmm.
Et puis, chez moi, j'utilise l'énergie solaire. C'est pourquoi je suis vraiment très ravi par l'émission.
Mm-hmm.
Comment on peut développer l'énergie avec le courant d'air de l'océan? Alors, moi, j'ai besoin de me poser à Didier. Quel jour tu pouvais descendre à Mwanda, être en contact? Parce qu'il a dit qu'on peut éviter à Néa pour monter.
Oui.
Alors, on peut faire les études ensemble parce qu'il y a des banques, il y a l'FPI, Alors on peut essayer comment on peut développer l'énergie à Moanda parce que nous souffrons beaucoup pour l'énergie.
D'accord, monsieur Jean-Didier, pouvez-vous lui passer quelques vos contacts oui. Après l'émission, vous serez vous allez échanger avec lui.
Ok, monsieur Mbenga, le numéro c'est le 09.
Oui.
90.
90.
25.
25.
35.
Oui.
29.
Voilà, 09 90 25 35 29. Appelez M. Jean-Didier à ce numéro et vous allez échanger après l'émission. Alexis, vous êtes à Bukavu, bonjour.
Bonjour, Okapi. Je remercie l'intervenant du jour. C'est un sujet très intéressant. Mm-hmm. Mais je voudrais quand même lui demander, quand il donne la classification des sources d'énergie renouvelable, qu'il puisse expliquer aux auditeurs quelles sont les sources qui sont polluantes et quelles sont les sources qui sont propres. Parce que tout le monde croit que, a toujours l'habitude de croire que toutes les sources d'énergie renouvelable sont propres comme l'hydro. Électricité. Ainsi que être beaucoup plus explicite pour donner quelques conseils à ceux qui sont intéressés par ces sources d'énergie. Merci beaucoup.
Merci. Voilà, M. Jean-Bédier, vous allez répondre à toutes ces préoccupations.
Ok, merci. Je commence par Alexis et puis je vais continuer avec les autres. Pour Alexis, il dit quelles sont les sources polluantes, quelles sont les sources qui ne sont pas polluantes. À ce qui concerne les énergies renouvelables, je crois que nous devons faire la différence entre énergie renouvelable et énergie propre. Les énergies renouvelables, comme je l'ai dit, ce sont les énergies dont le rythme de consommation doit être égal au rythme de renouvellement. Mais les énergies propres, ce sont les énergies qui émettent moins de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Là, je peux vous donner l'exemple. L'exemple, c'est par exemple de l'énergie nucléaire. L'énergie nucléaire fait partie de ce qu'on appelle les énergies propres, mais n'est pas une énergie renouvelable parce que la matière première qui sert à la production d'électricité, qui est l'uranium, n'est pas une matière renouvelable. Les énergies renouvelables ne veulent pas dire que les énergies renouvelables ne mettent pas de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais quand on compare la quantité de gaz à effet de serre émis dans l'atmosphère par rapport aux énergies renouvelables, si elles sont produites dans de bonnes conditions, la différence est grande. Je donne un exemple très probable. Vous avez un kilowattheure de l'énergie qui est produite à partir du pétrole. Elle met autour de 1000 grammes de CO2 dans l'atmosphère. Mais un kilowattheure de l'énergie produite à partir de l'hydraulique émet 4 grammes de CO2 dans l'atmosphère. Toutes les énergies émettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Mais à la seule différence, dans des proportions différentes, à la seule différence que les renouvelables, si elles sont produites, émettent moins de gaz à effet de serre. Vous voyez la différence de 1000 pour le pétrole à 5 grammes pour l'hydraulique. Donc c'est énorme. Mais il y a toutes les énergies émettent des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Ouais. Mais ça dépend de la manière dont on est en train de les exploiter.
Il y a Benjamin qui était revenu sur le groupe électrogène. Il a dit que ça provoque parfois des incendies. Quel conseil vous pouvez lui donner?
Oui, Benjamin a posé une problématique très importante par rapport au groupe électrogène. Aujourd'hui, il y a des groupes électrogènes du type Lister qui fonctionnent à l'aide de l'huile des atrophas. Donc il n'y a pas d'incendie dans ces groupes-là. Et il faut que les gens s'organisent, essayent de travailler avec la production d'huile des atrophas. Vous pouvez avoir un groupe qui
est ce qu'on a déjà ici, ce genre de groupe.
Il suffit de les commander. Il y a déjà des importateurs, des Indiens qui travaillent ici. Il suffit de les commander. Nous avons besoin d'un groupe du type Lister qui va fonctionner à l'aide de l'huile des atrophas. Je vous invite. On est en train de mettre un projet au niveau du Mandoulou. Et dans le village de Mokamon et dans le territoire de Massimandimba, nous avons un groupe électrogène pour appuyer la sécurité énergétique au niveau de l'hôpital qui va fonctionner à l'aide de déjà trop
bien. Jimanga, depuis qu'il s'organise, dit quel type d'énergie adapté pour la RDC.
Voilà. Oui, le type d'énergie adapté pour la RDC. Pour le développement d'un pays, on ne peut pas dire qu'il faut se focaliser seulement sur l'hydraulique. Pour un pays qui va aller vers le développement, nous devons diversifier nos sources d'énergie. Parce qu'aujourd'hui, avec la question du changement climatique, si le gouvernement congolais fournit ses efforts seulement sur l'hydraulique, mais vous allez voir qu'il y a des moments pendant la saison sèche où il n'y a pas d'électricité dans la ville. Parce que le niveau d'eau a sensiblement baissé et que les turbines ne peuvent pas tenir normalement au niveau d'Inga. Ça, c'est la preuve, on le voit. Donc, un pays sérieux où les gens responsables ne peuvent pas se focaliser, mais ils doivent
diversifier les sources d'énergie.
Les sources d'énergie pour permettre au pays de se développer de façon bien. Et là, je voudrais ajouter, monsieur le journaliste, il est aujourd'hui également inadmissible que tout un pays soit relié sur un tel réseau. Si aujourd'hui la ville, toute la République démocratique du Congo est reliée sur Inga, si aujourd'hui les choses ne marchent pas Inga, si le barrage n'a pas bien tourné, c'est tout le
pays.
Donc ça, c'est des pratiques qu'il faut, à mon avis, changer pour permettre d'aller vers un développement beaucoup plus durable.
Alors, ingénieur Mangoyo vous pose la question de savoir si vous avez un plan, vous êtes en contact avec le ministère de la Recherche scientifique pour voir comment développer ces sources d'énergie.
Exactement, je crois qu'on en a dit, je connais énormément beaucoup de gens au niveau du ministère de la Recherche scientifique. Nous avons énormément travaillé avec des conseillers qui sont là au ministère pour commettre sur une stratégie nationale en matière de promotion des énergies renouvelables. Comme je l'ai dit, les choses n'ont pas très bien marché, à mon avis, parce que c'est un programme, il n'y a pas d'argent, il n'y a rien, donc ça n'intéresse pas beaucoup de gens. Voilà là, ce que je peux dire en rapport avec cette question.
Et il dit, vous avez dit qu'au début, pour le moteur, on utilisait l'alcool. Et on a évolué vers l'essence. Et il dit, si on retourne encore à l'utilisation de l'alcool, est-ce que c'est même pas retourner à la. C'est pas un pas en arrière.
Il pose une très belle question. Pourquoi les gens abandonnent l'alcool pour l'essence? Bien sûr, à l'époque, le pétrole était une ressource énergétique abondante et qui coûtait moins cher. Par rapport à l'alcool, il fallait cultiver les plantes, et que ça coûtait extrêmement cher. Mais aujourd'hui, il y a deux questions importantes qui nous font revenir sur les énergies renouvelables. La première question, c'est que les ressources pétrolières sont en baisse. Le pétrole, les réserves du pétrole sont en train de baisser, et également le coût est en train de monter. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est la question du changement climatique. Il est clairement admis que l'utilisation du pétrole et de ses dérivés émet des gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Donc la communauté internationale, tout comme la communauté scientifique, sont obligées à réfléchir sur d'autres formes d'énergie en dehors du pétrole pour permettre à l'humanité de continuer vers un développement beaucoup plus durable. Mmh. Donc, si les gens ont abandonné l'alcool et les huiles, c'est parce que le pétrole à l'époque coûtait moins cher et il était abondant. Mais actuellement, nous sommes tous convaincus que le pétrole n'est plus abondant et le coût est en train de monter.
Alors, il faut développer d'autres sources d'énergie.
Il faut développer d'autres sources d'énergie et les sources d'énergie qui sont à notre disposition, ce sont les énergies renouvelables.
Voilà. Bien, on s'arrête là, Jean Desvieux, c'est tellement intéressant. On aura peut-être l'occasion de poursuivre une prochaine fois. On rappelle que vous êtes expert en environnement et développement. Merci d'avoir répondu à notre invitation et à la prochaine.
Ok, c'est moi qui vous remercie beaucoup.
Okay.